1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une émission Le Grand Tout. Elles seront isolées, hein, ces émissions de ce mardi et de ce mercredi, dans une semaine un peu plus courte, vraiment plus courte que d'habitude. Un disque d'or de la semaine tout de même, oui, c'est pas parce qu'on l'écoutera pas beaucoup que vous n'aurez pas de plaisir, j'espère, à entendre les extraits cette semaine de All Together Stranger pour l'américaine Lyle Neal. Nous retrouverons Antonin Moreau du cinéma Arvor et de l'émission Le Cinéma est mort, qui nous parlera de films à ne pas rater à l'Arvor dans les semaines à venir. Il y aura des places à gagner d'ailleurs, vous serez bien attentifs, mais seulement à partir de mercredi sur canalb.fr. Vous retrouverez dans la session Info Concert des concerts au Melody Maker, au Marquis de Sade, à l'Ubu, et puis aussi à nouveau au Marquis de Sade. On terminera avec les nouveaux disques découvertes Ferrarock de la semaine. Vous les avez déjà entendus la semaine dernière, des extraits de l'album de Drug avec 2 U et 2 G, et puis de Moonback Stage. Mais on part à Los Angeles avec la musicienne Lyle Neal, qui nous donne un nouvel album, All Together Stranger. Elle se déclare fan de Mazzie Star, de Broadcast, du Velvet Underground. J'entends aussi peut-être quelques souvenirs de Kate Bush dans la musique qu'elle propose, entre musique synthétique, psychédélique, transcendantal même, allons-y sur ce nouvel album dont je vous propose un morceau que vous avez déjà entendu, puisque c'est un des premiers singles extraits de cet album sorti le 2 mai sur le label de Seattle Sub Pop. Voici le titre Down on the Freeway, et puis juste après Un fauteuil pour deux. Everyone's talking, everyone's dreaming.
pardon de t'avoir forcé à aller voir tous ces films indépendants.
Oh, ça fait rien, Wendy, je te pardonne.
J'oublie trop souvent que même si quelques films indépendants sont géniaux, la plupart sont très chiants.
Cinéma de nos jours, c'est plus du tout ce que c'était. Rien de 18 et des rimes comme paquet de navets.
Cinéma! Cinéma! Oui, je sors, je suis cinéma! 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 Cinéma!
Dans la mesure du possible, une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, c'est un fauteuil pour deux. Bonjour Antonin.
Salut Yann.
Bonjour Eric. Ah bah non, Eric ne répond pas parce qu'il n'est pas là encore une fois. Bon, il m'a dit cette fois-ci qu'il était chez le dentiste.
Oh là 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 là.
Bon, en tout cas, on est ensemble une fois par mois donc pour évoquer quelques projections au cinéma Arvor. Tu y es à l'animation, à la programmation, à la communication, sur beaucoup de fronts directement. Hein,
ouais, Antonin. Ben, je couteau suisse. Hein.
C'est ça. Et tu vas nous parler de quelques événements à venir. Déjà, jamais trop tard pour bien voir. Je pense que vous avez à peu près compris de quoi il s'agit, des films que vous n'avez pas vu à Rennes, mais qu'il faudra voir quand même. On parlera de deux films plus ou moins récents, hein, je sais pas, quand même, Requiem pour un massacre et Soleil Vert.
Ouais, 80 pour Requiem pour un massacre, Soleil Vert c'est 73, un truc comme ça, ouais.
C'est ça, et puis on évoquera des films encore moins récents peut-être, avec une trilogie. C'est vrai qu'il y a plus de films dans la saga Indiana Jones, mais c'est la trilogie 1, 2, 3 que vous préférez voir peut-être, avec le premier, le 8 juin. Tu nous parleras de ça, et puis il y aura des places à gagner pour Soleil Vert, pour Indiana Jones par exemple, ou bien pour les séances de Jamais Trop Tard pour Bien Voir. Alors, comment se fait-il que l'Arvor, un des cinémas d'art et essai en France qui fonctionne le mieux, n'a pas eu la préscience comme ça de programmer déjà ces films Aimer Perdre ou bien September and July, et il faut les rattraper.
Disons que ouais, le calendrier des sorties cinématographiques est ainsi fait qu'il y a des semaines où il y a beaucoup de films hyper intéressants et on en privilégie certains et on en laisse tomber d'autres que parfois on a vu et donc c'est par choix ou que des fois on n'a pas vu, et il y a des semaines comme actuellement depuis quelques semaines où au contraire il n'y a rien, enfin où c'est les fameux ventre mou Festival de Cannes où on est des fois sur vraiment des semaines assez pauvres en salle et assez pauvres en sortie et aussi en sortie intéressante, hein, faut bien le dire. Des fois il y a un peu des films qui sortent, mais c'est des fois ce que je peux appeler un peu des fonds de tiroir de distributeurs, donc des films pas forcément hyper intéressants, et là au débeauté comme ça pour la semaine du 14, du mercredi 14, qui est d'ailleurs la date d'ouverture du Festival de Cannes, et moi il y a plusieurs films que j'avais pu rattraper comme ça, et notamment Aimer Perdre des frères Guit, et puis le September et July ou July et September de Ariane Labette, que j'avais vu pu rattraper, que j'ai trouvé exceptionnel et où ça me faisait un petit pincement au cœur quand même qu'il n'ait pas pu passer à Rennes. Donc on s'est dit avec l'équipe que ça pourrait être pas mal de faire une semaine comme ça pour les sur 4 sorties, de pouvoir les réexposer pour pouvoir permettre à notre public de pouvoir voir ces films, ou en tout cas deux d'entre eux que j'ai pu voir. Aimer Perdre et Juillet September sont vraiment exceptionnels. Ouais.
Alors, Aimer Perdre, tu me l'as présenté comme un film belge très attachant. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes. Qu'est-ce que c'est que ce film?
C'est un film belge. Alors, comment le décrire? C'est quand même... faut pas être allergique au truc, à l'humour débile. Parce que c'est vraiment un truc très débile, très low-fi.
Celui, par exemple, de, je sais pas, moi... Eric Ramsey, par exemple.
Ouais, mais moins dans l'absurde d'Eric Ramsey. Alors, oui, on pourrait s'en rapprocher, mais disons que pour ceux qui connaissent, ça serait plus proche de Napoléon et Dynamite, le film dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui a une sorte de curiosité, de succès, en tout cas de vidéo, ou de DivX qu'on se refilait assez facilement il y a une quinzaine d'années, et un film américain, mais qui est était vraiment dans un humour débile avec des gens un peu déphasés qui faisaient n'importe quoi. On pourrait rapprocher ça de Dumb and Dumber, mais Dumb and Dumber par exemple c'est presque plus classique, on va dire. Il y a presque de la dramaturgie au sens aristotélicien là-dedans, alors que dans Napoléon Dynamite plus du tout. Et dans Aimé Perdre, non, il y a vraiment ce truc là c'est des frères Guit, c'est des gens qui officient à Bruxelles dans le cinéma amateur et dans des circuits des festivals depuis pas mal de temps. Moi j'ai eu vraiment un petit coup de cœur sur ce film là. On pourrait rapprocher ça aussi du cinéma de Carverne et Delpine, en tout cas d'un côté un petit peu d'un goût pour l'absurde, de personnages un petit peu à côté, de personnages un petit peu déphasés. Et pour moi en tout cas, là où moi je peux avoir une crainte en général dans ce film, c'est que j'ai parfois l'impression que c'est un petit peu dans la pose et regarder comme on est originaux et ça suffit, en fait l'originalité suffit à donner une existence au film, mais non, ça suffit pas. Il faut aussi avoir un petit peu une sorte d'énergie, et que je trouve complètement dans ce film. C'est porté par une actrice, j'ai oublié complètement son nom, mais qui porte le film et qui a une énergie folle. Et ouais, ça a été vraiment j'ai beaucoup rigolé à regarder ça.
Dans ce cycle Jamais trop tard pour bien voir, où vous pourrez donc découvrir en salle des films qui n'avaient pas été montrés à Rennes, il y aura 4 films, on n'en donne que 2 aujourd'hui, hein. Un peu de suspense, vous irez voir la liste complète sur cinéma-arvor.fr. L'autre film dont tu nous parles aujourd'hui, c'est September and July, dans cet ordre finalement, oui, ça c'est bien le nom du film. Ce sont 2 prénoms ou 2 mois de l'année?
C'est September 2 prénoms. And July. Ah, encore des hippies qui donnent des prénoms n'importe comment à leur enfant. Voilà, non, ça c'est un film d'Ariane Labed. Alors pareil, ça c'était vraiment, moi pour l'instant, c'est un de mes coups de cœur de l'année. C'est un film, effectivement, on l'a déjà dit, pas passé sur Rennes. Ariane Labed, c'est une comédienne franco-grecque qui a déjà fait quelques courts-métrages, me semble-t-il, et qui est connue aussi comme scénariste, comme comédienne. Et c'est un film très particulier, c'est un film en langue anglaise et qui a un ton qui serait entre un peu une sorte de conte un petit peu ouaté, qui se place vraiment dans une sorte de famille, dans entre 2 sœurs et leur mère. Il y a un côté à la fois extrêmement doux dans le film, mais en même temps on sent qu'il y a un truc un petit peu vénéneux mais un peu indécidable pendant tout le film. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, c'est en fait assez rare en fait les films, quand on t'en voit beaucoup, ou d'un moment tu dis oh là là, il y a un vrai regard de cinéaste, où tu dis il y a une sensibilité, t'arrives pas trop à mettre des mots dessus, mais tu dis là il y a vraiment quelque chose que j'ai pas vu ailleurs, qui a sûrement aussi vraiment un regard très féminin sur ce sujet là qui à la fois, en tout cas dans ce film là très physique, il y a vraiment un côté très physique, et en même temps t'es dans une sorte un petit peu d'univers un petit peu éthéré, donc une sorte de truc un peu paradoxal comme ça. C'est un film qui est presque à la lisière du fantastique. Je m'arrête là, mais je recommande vraiment d'aller découvrir ce film là moi ça m'a paru être une des plus belles réussites de l'année.
Thank you. attention à toi. Sois prudente. Sans garde du corps, n'essaye pas de sortir.
Le nouveau locataire vient ce soir.
Tu lui plairas. Un mobilier comme toi, c'est rare.
Je t'en prie, ne me parle pas comme ça. Tu veux bien ?
D'accord.
Une dystopie des très riches qui ont droit à des trucs que les très pauvres n'ont pas droit. Ben ça, vous avez déjà vu ça, ça s'appelle La Vraie Vie. Mais bon, là, c'est un peu plus loin dans ce film Soleil Vert. Vous avez peut-être pas reconnu l'extrait, mais c'est bien un extrait de ce film de Richard Fleischer que tu nous amènes, Antonin, qui sera projeté au cinéma Arvor le 15 mai. Vous lancez un nouveau cycle ou il existait déjà
non,
ce cycle ?
Non, c'est notre partenaire, l'Institut franco-américain, qui nous propose régulièrement des séances. Là, c'est une sorte de cycle autour du cinéma américain, effectivement, mais sur la thématique de l'écologie. Donc, on va passer aussi Leave No Trace et puis Sabotage, How to Blow Up a Pipeline, un film de 2 ans, l'adaptation du bouquin d'Andrés Malm, hein, je crois. Et le classique de ce cycle-là, oui, c'est Soleil Vert, qui fait partie de toute cette petite veine du cinéma américain de science-fiction des années 70, qui était très, très habité par des préoccupations écologiques aussi. On a l'impression qu'on a découvert l'écologie il y a 10 ans, mais voilà, c'est vrai que dans cette année-là, préoccupations des années 60 aussi, il y a eu vraiment, ça a imbibé le cinéma de science-fiction de cette époque-là, et Soleil Vert, c'est un grand classique, et moi c'est un film auquel je tiens beaucoup aussi, parce que c'est un metteur en scène qui le signe, Richard Fleischer, auquel je tiens beaucoup, dont on a un peu identifié le nom depuis 15 ans dans la cinéphilie, hein, je parle, parce que c'est quelqu'un dont les films sont plus connus que le nom Soleil Vert, c'est vraiment un classique, c'est assez connu. Mais le Richard Fleischer, au final, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas si identifié que ça et qui est vraiment l'auteur d'une flopée de très très grands films, toujours confondus. Hein, parce que pareil, les Vikings, c'est assez connu, mais on a du mal à relier les Vikings de Soleil Vert. C'est un cinéaste de studio, il est lui-même le fils de Max Fleischer, qui est le créateur de Betty Boop. Hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment un vieux de la vieille du Hollywood. Et qui a une carrière qui court des années 50 aux années 80, en fait, parce qu'il a même fait Conan 2. Alors, c'est pas son meilleur film, hein. Mais voilà, c'est plutôt un très grand metteur en scène. Qui a vraiment une vision sur les sociétés, sur les rapports de pouvoir dans les sociétés, entre les hommes et les femmes, entre des gens racisés, des gens non racisés. Je pense particulièrement au film Mandingo, qui est très peu connu de Fleischer, mais qui est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma américain sur la thématique de l'esclavage. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vraie vision, un vrai talent pour faire des peintures d'une société dans toutes les structures de pouvoir qu'elle peut avoir, donc voilà, et Soleil Vert effectivement ça fait partie de ses plus grandes réussites.
Avec Edward J. Robinson et Charlton Heston et Joseph Cotten, mais c'est incroyable quand même ce casting avec des gens très 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 vieux et puis des futurs membres de la NRA. Charlton Heston n'était pas encore tout à fait l'ultra réac qu'il est devenu. Mais en tout cas, un film à voir si vous ne l'avez pas vu. Ça commence déjà de manière assez presque documentaire, le film, avec des images d'actualité qui se succèdent pour arriver à une planète où le climat est devenu complètement fou, la nourriture est difficile à trouver, et puis les catégories sociales sont vraiment bien séparées les unes des autres quand même, hein. Vous retrouverez donc Soleil Vert de Richard Fleischer le 15 mai. Place à gagner sur canalb.fr. Ce sera projeté donc au cinéma Arvor dans le cadre de ce cycle L'environnement au cœur du cinéma, en partenariat avec l'Institut franco-américain Hors les murs. On va poursuivre avec cette fois un film moins connu sans doute que Soleil Vert, et là carrément dans une projection monumentale. Moi je n'ai jamais entendu parler de ce film, ouais. Ça fait plaisir de découvrir des films qui sont mis en avant comme ça par le cinéma Arvor, comme ce Requiem pour un massacre d'Elem Klimov, qu'est-ce qu'il a de si monumental et pourquoi moi je l'ai pas vu ce monument-là.
Oui, après c'est vrai que c'est un film qui est très peu identifié. Bah après parce que déjà c'est un film russe et que hormis dans les, enfin en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, hormis des gens comme Tarkovsky, le cinéma russe il est moins identifié dans la cinéphilie en tout cas française et puis occidentale. Mais ce film-là, c'est même moi un film que j'ai découvert vraiment sur le tard parce que c'est aussi un film qui était assez peu visible, hein, qui a commencé à être dont on voyait vraiment beaucoup de cinéastes particulièrement qui le citaient énormément en citant aussi certains de ses plans, je pense à des gens comme Gaspard Noé ou d'autres, et qui disaient bah voilà, un des plus grands films sur la guerre, c'est bien celui-là. Alors c'est un peu une projection qu'on a fait, que j'ai mis en place au Débeauté en me disant ouais, ça pourrait être marrant de faire ça pour le Victory Day, prendre un petit peu le côté front est aussi déjà pour changer un petit peu. Et puis surtout, bah, faire là une des particularités de ce film-là, c'est que c'est toujours un peu l'enjeu des films de guerre, c'est que comment faire des films sur la guerre, mais ne pas jouir de la guerre, quoi. C'est-à-dire que bah, là, on sait que dans le cinéma américain ou même dans le cinéma russe de Eisenstein ou je sais pas quoi, bah, il y a toujours, et même moi le premier, hein, j'adore kiffer de voir des grosses batailles et tout ça. Et puis au final, on prend quand même plaisir à ça. Ou quand on regarde Le Jour le plus long, bah, il y a un côté un petit peu victorieux. Et même dans Apocalypse Now, on peut avoir ça. Même dans Il faut sauver Solarian, même pour peu que ça se soit très très violent, il y a quand même une sorte de jouissance que le cinéma a peine à mettre de côté dans la représentation de la guerre. Requiem pour un massacre, c'est un des rares cas où là d'un coup le cinéaste est complètement exempt de reproches sur ce côté-là. C'est-à-dire que là c'est vraiment non pas que le film était un alignement d'horreur, mais parce qu'il y a quand même une sorte de vision, de volonté de représenter la beauté. C'est d'un point de vue de l'enfant, il y a un côté un petit peu halluciné pendant tout le film, mais à aucun moment on va être dans une sorte de glorification, même malgré elle, de la guerre et de ses victoires et ses défaites, d'une sorte de romantisme guerrier. Et c'est un film qui, comme souvent les films russes de cette époque-là, qui est formellement absolument brillant, hein. On se demande comment ils font. Des fois, on a l'impression que les drones, ils les avaient inventés avant, parce que c'est vraiment, on sent qu'il y a des techniciens hors pair. Et puis bon, ça, c'est des regards un petit peu techniques, mais c'est des films qui sont hyper, hyper prenants visuellement. Et voilà, c'est un film qui est pas si vieux que ça, hein, qui date de 87, hein, il me semble. Donc effectivement, bon, il y a quand même eu des problèmes L.M. Klimov a quand même rencontré des problèmes par rapport à l'URSS pour mettre mener à bien ce projet-là. Et c'est vrai que quand on voit la tronche du projet, tu te dis quand même, il a dû batailler sévère.
Attention, hein, projection unique jeudi 8 mai pour ce Requiem pour un massacre, un chef-d'œuvre que peut-être nos auditeurs auditrices ne connaissais pas non plus, donc merci de le projeter. Justement, oui, la veille de ce jour de victoire, le 9 mai, où peut-être il se passera des drôles de choses à Moscou, je ne sais pas. Alors, en tout cas, vous retrouvez toutes les infos sur les films que tu nous présentes, Antonin, dans Un fauteuil pour deux aujourd'hui, sur cinéma-arvor.fr. On va terminer cette chronique mensuelle, et la dernière, ce sera, je crois, le 3 juin. J'espère que Eric sera des nôtres, j'espère bien, puisqu'un fauteuil pour deux, c'était ça l'idée quand même. Hein. Vous partagez le même fauteuil là, t'es super confortable, t'en as qu'un pour toi.
Ah bah là, je respire. Hein,
c'est pas mal. Alors, un extrait d'un film que peut-être certaines d'entre vous avaient déjà vu, mais peut-être jamais au cinéma, donc il faudra le voir.
Qu'est-ce que c'est que cet arboyau?
J'ai grandi avec, c'est une fabrication familiale.
Je crois que je vais aller faire un tour. Au revoir. Tu sais, t'es sympa, Belloc. Très sympa, c'est vrai. Alors à bientôt, j'espère. On se téléphone, promis.
Le monde est petit, Fräulein. Ah, ces Américaines, elles sont incorrigibles. Elles sont toujours trop habillées ou trop déshabillées.
Ah, l'humour, toujours, bien sûr. Vous avez peut-être reconnu l'un des chefs-d'œuvre, je dis bien des chefs-d'œuvre, évidemment, de Steven Spielberg. Alors, c'était un film avec Harrison Ford quand il était beau, jeune et qu'il maniait le fouet comme personne.
Et qu'il jouait aussi.
Et oui, maintenant, il est assis comme ça sur un fauteuil et puis il joue un ancien psychothérapeute, mais je pense qu'il est mort, en fait.
Je pense qu'il est en état de mort cérébrale, en tout cas pour le cinéma depuis bien longtemps.
Bon, c'est donc Les aventuriers de l'Arche perdue, Raiders of the Lost Ark, le premier de la saga Indiana Jones. Et pas forcément le meilleur, comme chacun pourrait dire, en fait.
Ah, oh, si, quand même.
Ah, bon.
Si, si.
Ah, bon.
Bah, moi, je dirais que si, hein. Mais, bon, après, voilà, c'est, non, moi, on est très content de passer ça dans le cadre du film dimanche soir, parce que c'est effectivement, bon, à mon sens, et je suis pas le seul dans l'équipe pour qui programme ce rendez-vous-là à penser que c'est le film du dimanche soir ultime, hein. C'est-à-dire le film dont on est beaucoup, en tout cas, à ne jamais se lasser.
Pour moi, c'est plus La Grande Évasion, mais bon, évidemment, je suis plus vieux.
C'est des problèmes de génération, tout ça. Mais moi, effectivement, je sais que, bah oui, c'est vraiment le film par lequel je suis rentré en cinéphilie, hein, je m'en rappellerai toujours de tomber sur un enregistrement sur le canal de ça avec un copain et de regarder le film deux fois de suite et d'halluciner, de me dire mais mes rêves les plus fous ont été mis sur du celluloïde, quoi. Vraiment, et depuis, c'est un film, alors contrairement à pas mal de films de mon enfance dont je m'éloigne ou dont voilà que je regarde avec moins de plaisir et avec plus d'objectivité, celui-là je c'est vraiment un film qui m'a hyper accompagné, parce que chaque fois je le trouve toujours aussi génial. Il y a tellement une maestria dans la mise en scène, tout est tellement absolument parfait dans comment c'est mis en scène, que ce film-là, je crois que c'était Soderbergh qui a un site internet, le cinéaste qui est obsédé aussi par ce film et qu'il a déjà fait des remontages du film en noir et blanc, sans le son, ou de ne proposer de n'écouter que le film, de ne pas regarder l'image, en disant, bah, regardez, tout est parfait. En fait, on peut très bien tout comprendre le film si on enlève tout le son, toute la musique et tout ça, parce que tout est vraiment une sorte de maestria dans tous les éléments cinématographiques qui fait que y a une sorte de limpidité totale sur l'ensemble du film. Donc voilà, je suis très content, d'autant que c'est un film que je n'ai jamais vu au cinéma et qu'on voulait faire depuis évidemment assez longtemps, mais les films sont bloqués, enfin étaient bloqués suite à probablement à la sortie du dernier épisode, bloqués ou très très cher, et donc là on est très content de proposer celui-là, et puis effectivement on s'est quand même dit on va faire les deux autres, donc on va finir la saison du film de dimanche soir avec la projection du premier, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, le 8 juin. Le deuxième, le Temple Maudit, sera autour du 28 juin, dimanche soir, pendant la fête du cinéma. Et on va ouvrir la prochaine saison en septembre avec la dernière croisade. Et bon, moi, de toute façon, je les aime tous. Et aussi le Temple Maudit, que je recommande, parce que c'est pas forcément le plus aimé.
Il est plus sombre, celui-là.
Il est plus sombre, et même ses auteurs l'aiment beaucoup moins. Je sais que quand les DVD sortaient, les commentaires audio, je recommande à tout le monde d'écouter ça. On voit George Lucas et Steven Spielberg qui parlent autour du film et qui sont dépités du film qu'ils ont fait. Ils se disent, on allait vraiment pas bien à l'époque. Ils étaient tous les deux en plein divorce. Ils s'en sont donnés à cœur joie dans la misogynie, dans le truc un petit peu très malsain, de mauvais goût, et particulièrement sur la cruauté envers les enfants. Alors ça rend le film vraiment assez fascinant de façon un peu perverse, hein, mais c'est aussi un film qui est peut-être presque fatigant, tellement c'est pareil, il y a vraiment du génie de mise en scène tout le temps, presque le rythme est trop rapide tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a du génie tout le temps, et on a l'impression qu'il y a cinq genres de films qui sont investis par Spielberg là-dedans. T'as des trucs de comédie romantique qui sont fous, donc ouais vraiment les trois, ça va être un gros gros plaisir de voir ça en salle.
Vous retournerez voir Indiana Jones au cinéma à partir du 8 juin au cinéma Arbor. Attention, il n'y a qu'une projection, hein, sur ce film. C'est un film du dimanche soir, tout comme les deux suivants seront projetés, comme tu le disais, dans le cours de la saison. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos sur cinéma-arbor.fr. Jetez-vous, hein, sur vos ordis à partir de mercredi seulement. Le concours ne sera lancé que ce mercredi pour tenter de gagner des places. Oui, il y a des places mises en jeu pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, aussi bien que pour Soleil Vert, et puis les séances de Jamais Trop Tard pour bien voir. Merci Antonin.
Merci Yann.
On termine avec Ceci est l'histoire, hein. C'est comme ça que tu as nommé cet extrait. Alors, si vous l'entendez un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans un blind test du cinéma est mort, vous saurez que vous l'avez entendu ici, mais il a déjà été proposé dans un blind test, cet extrait.
Oui, j'imagine que
évidemment.
Oui. Évidemment. Ouais, plusieurs fois même.
À dans un mois, et puis bon mois de mai, bon festival de Cannes.
Oui.
À distance, peut-être.
Non, j'y vais.
Tu y vas. Ouais. Bon, bah, tu nous ramèneras quelques souvenirs, hein, évidemment.
Moi, ouais, je t'enverrai une carte.
C'est ça. À bientôt. Merci, Antonin. Et la bise à Eric, évidemment.
Exactement, oui.
Indiana, nous ne faisons que passer à travers l'histoire. Ceci est l'histoire.
Longue session info concert dans le Grand Tour aujourd'hui sur Canal B qui vous permettra dans un premier temps d'aller au Melody Maker grâce à Carvigny Records ce vendredi 9 mai avec Fantôme Josepha et Hildegarde. Mais il y aura deux Hildegarde, c'est pas le même groupe dans cette session info concert. On évoquera aussi au Marquis de Sade un concert samedi 10 mai avec Chien d'enfant et Nul si découvert. Vous irez peut-être à l'Ubu pour Brian's Magic Tears samedi 15 mai, puis on terminera avec un concert qui lui vous sera proposé le 24 mai, il y a le temps d'y penser, au Marquis de Sade avec Yul Brynner et Daddy. Mais commençons par ce duo composé des multi-instrumentistes Josepha Mougenot et Monsieur Marcaille. Ils viennent de Verdun proposer une musique qu'ils nomment Progressive Waves. On y retrouve de l'orgue électronique ancien, de la guitare baryton, des voix. C'est entre psychédélisme et exotisme gothique, nous dit-on. Voici un titre, Ein Sturm, pour Fantôme Josepha, que vous verrez le 9 mai au Melody Maker, et en première partie la noise futuriste de Hildegarde de Rennes avec un H, parce qu'on écoutera plus tard dans l'émission Hildegarde avec un I. C'était Fantôme Josepha en concert grâce à Carmignu Records vendredi 9 mai. Le lendemain, samedi 10 mai, ce samedi, vous retrouverez au Marquis de Sade Chien d'enfant et Nul si découvert. La nouvelle vague rock finistérienne déboule au Marquis de Sade. On écoute les deux groupes ensemble, Chien d'enfant et Nul si découvert. En tout cas, si j'ai bien compris, leur split EP récemment posté sur Bandcamp, c'est le titre Bagnole. Chien d'enfant et Nul si découvert seront au Marquis de Sade samedi 10 mai. On poursuit la session info-concert avec les Parisiens de Brian's Magic Tears qui, eux, sont retombés dans les années 90, période de baggy sound de Manchester, avec un grand goût pour les groupes de cette époque-là et de ce genre-là qui mêlaient musique indie et puis ambiance plutôt club. Les Happy Mondays, par exemple, peut-être on peut penser aussi aux Stone Roses. Vous allez entendre ce morceau Crab Kiss par Brian's Magic Tears. Ils seront à l'Ubu grâce au Trans le 15 mai avec aussi Hildegarde, mais avec un I cette fois, qu'on écoutera juste après.
barricadés, ils se sentaient menacés. Aucune trace d'effraction, rien n'a été volé. Ils se sentaient menacés, mais pourtant, il a laissé l'agresseur entrer. Il ne s'est pas méfié d'un visage qui, certainement, lui paraissait familier. Un assassinat perturbant, dont la police aura du mal à dire si le mobile était personnel ou politique, jusqu'à l'envoi en recommandé d'une lettre à l'épouse de la victime. J'aurais voulu ne pas me salir les mains, j'aurais aimé ne pas subir, ne pas souffrir, pouvoir me concentrer sur mon avenir. Malheureusement, je n'ai pas pu me résigner à laisser un type comme ça en liberté. Je ne sais pas comment il était, peut-être qu'il était sympathique, qu'il emmenait Nina à la danse classique le mercredi après-midi et Thomas à l'entraînement de foot le dimanche matin. Peut-être qu'il vous aimait, que vous l'aimiez, qu'il était du genre à vous masser les pieds, à vous emmener le petit déjeuner au lit. Je ne sais pas si j'en suis désolée, mais quoi qu'il en soit, tout ça est terminé. Éclairer sur les circonstances de la mort et surtout sur le profil potentiel du meurtrier. Tout à fait, Christophe. La police pense d'abord qu'il s'agit très probablement d'un homme, étant donné la violence du coup porté à la tête. Mais les enquêteurs n'excluent aucune piste. En effet, sous l'emprise de la colère, une femme pourrait avoir porté le coup fatal. On pense notamment à l'affaire Jacqueline Sauvage. Je n'avais rien prévu de si létal, de si définitif. Je voulais simplement le confronter à ses actions, lui faire admettre la vérité. Peut-être que j'espérais des excuses, une forme de rédemption. Mais lorsque je suis arrivée, tout était barricadé. J'ai entendu un cri, j'en ai profité pour passer par la porte du derrière, celle par laquelle il y a 10 ans déjà j'étais entrée. Quand je suis arrivée, il y avait cette fille évanouie, inconsciente sur le canapé. Je n'ai pas réfléchi, je me suis cachée derrière. Quand il est finalement entré, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé ce chandelier et j'ai frappé. Lorsque mes yeux se sont réouverts, j'avais commis un homicide volontaire. Un homicide volontaire ! Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, hein ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Hildegarde, qu'on écoutait à l'instant dans Le Grand Tout sur Canal B, et Brain's Magic Tear seront à l'UBU le 15 mai. Vous aurez toutes les infos sur le site lestrans.com. On termine la session info-concert avec maintenant Yul Brynner, un power trio formé à Rennes en 2009. Ils n'ont pas sorti beaucoup de choses depuis quelques années d'ailleurs, hein, maintenant, on va le dire, mais vous les retrouverez en live tout de même au Arcade Sad le samedi 24 mai. Avec Daddy pour des ambiances indie assez classouilles tout de même. On écoutera donc Daddy tout à l'heure et le titre 5000 meters per second. Et puis maintenant Yul Brynner et le titre Frontal.
second, flying your rocket, 5,000 meters per second, trying to forget.
Daddy à l'instant sur Canal B, à retrouver au Marquis de Sade le samedi 24 mai avec ce qu'on écoutait tout à l'heure, Yul Brynner, concert Brainstorming Records. On va poursuivre et terminer le grand tour aujourd'hui avec les découvertes Ferrarock de la semaine. Vous aurez toutes les infos sur ferrarock.org. Moi, je vous en parlerai pas beaucoup plus de ces deux disques Lost pour le groupe Drug Garage pied au plancher, on dira, et puis un univers un peu plus stoner peut-être pour les Moon Backstage qu'on écoutera juste après avec le titre qui donne son nom, ça tombe bien, à l'album Eco Process. Toutes les infos sur ces deux albums à retrouver sur ferrarock.org. Nous on se retrouve mercredi pour déjà oui, une dernière émission Le Grand Tout cette semaine sur Canal B. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.